Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, auditeur de Radio Silence. Voici ma chronique numéro 45, Finance Vérité, dont le titre générique est Point de vue au pluriel. Dans l'actualité économique générale et coin, le point de vue d'abord des agents économiques. À réception de l'INSEE de l'évolution du prix des logements, appartements comme maisons, à l'issue du troisième trimestre 2010, les propriétaires se frottent les mains de voir ainsi le retour au-dessus de la valeur de fin 2007 de leurs biens en moyenne métropolitaine. D'ailleurs, le président des notaires, lors d'une récente interview au Parlement français, qualifiait de fluctuation épisodique la forte baisse de mi-2009 et d'accentuer l'idée, dans la foulée, que cette hausse allait continuer à fond vers un futur sans lendemain, comme dirait Howard Kunstler sur son site kunstler.com. Les acheteurs potentiels, eux, voient s'éloigner leur hypothèse d'acquisition à due concurrence du dépassement de leur capacité de remboursement ou de la dévaluation de leur épargne. L'équilibre qui devrait assurer la stabilité des prix entre ces deux points de vue est gravement attaqué et perturbé par les capitaux étrangers investissant en France, lesquels, faisant grimper les prix, chassent les Français de chez eux en leur interdisant l'espoir de pouvoir se fixer à proximité des grands centres et les refoulant très loin dans les campagnes, loin de leurs emplois, de leurs familles, de leurs cimetières. Le régime outrancièrement fluctuant des prix de l'immobilier et du foncier éloigne sans cesse l'investissement immobilier des bourses du plus grand nombre et le manque de sens civique des Français propriétaires revendant à des étrangers pour un profit immédiat en monnaie de singe s'apparente à de la trahison. Ma conclusion personnelle depuis longtemps est qu'une loi à la polynésienne interdisant à tout étranger l'achat de terrain et d'immobilier pour ne lui laisser que la location, même de longue durée, est hautement souhaitable pour le maintien des travailleurs français en France de toute qualité, aptitude, niveau, compétence, âge. Dans l'actualité économique, financière et Écho 2, nous allons voir le point de vue des agents financiers. L'augmentation permanente des crédits immobiliers de tout type, dans de fortes proportions, que le léger infléchissement de fin 2008 n'a pas du tout enrayé, contrairement à la propagande qui a tenté de faire croire à une crise économique pour masquer la vraie faillite des banques et de leur système général mondial, américain, européen et français, permettent une augmentation à due concurrence des profits sur les crédits, même consentis à taux faible, car compensés par l'augmentation des capitaux prêtés. Par ailleurs, ce petit alibi partiel au bénéfice des organismes financiers généraux, donc non spécialisés comme les banques, qui leur permet d'afficher leur soutien social à la construction de logements comme aux échanges, leur permet en réalité à 90% de se financer elles-mêmes à bas prix. Voir à ce sujet ma chronique précédente. Le point de vue des banques est donc simple. Elles se frottent les mains. Par contre, les établissements financiers très spécialisés dans le crédit immobilier, notamment à caractère social, direct ou indirect, eux voient leur marge se rétrécir à moins de 1% sur le chiffre d'affaires, et eux ne se frottent guère les mains. En résumé, la confusion des genres a d'abord engendré la confusion des métiers, puis l'incompétence des employés, et enfin la démotivation générale. Il est urgent d'annuler la loi de 1984 et de reconstruire la hiérarchie du crédit avec des spécialistes comme auparavant, banque de dépôt, banque de crédit à long et moyen terme, banque d'affaires, établissement financier spécialisé ou établissement de portefeuille. La confusion n'a jamais été la concurrence. La confusion génère l'anarchie. La concurrence a besoin de l'ordre. Le point de vue de la stabilité sociale s'oppose à l'anarchie générée par le changement à tout prix qui ne bénéficie qu'au point de vue des escrocs par les fluctuations qu'ils en sont arrivés à organiser à leur convenance. Dans l'actualité économique, monétaire et Crew3, maintenant le point de vue des émetteurs de monnaie dans cette affaire. En premier lieu, les banques, émettrices d'une monnaie crédit en expansion d'autant plus forte et rapide, quelle est la condition sine qua non de leur profit apparent, sont ravis de voir les prix s'envoler, leur permettant donc plus de crédit et plus de profit. Je les soupçonne d'ailleurs très fortement d'encourager, collectivement parlant, la hausse des prix de diverses manières pour justifier toujours plus de besoins de crédit immobilier en monnaie courante. Rappelez-vous que ce sont ces crédits qui, titrisés, resservent de base anti-monnaie à la création nouvelle de monnaie en croissance illimitée de ce fait. De plus, leurs sociétés de placement immobilier affichent des profits qui attirent les pigeons comme les graines des touristes sur la place Saint-Marc. Si les banques se frottent donc les mains, par contre, la banque centrale peine à suivre le mouvement car il lui faut sans cesse trouver le moyen de mettre toujours plus de monnaie centrale en circulation, ce qui la conduit à des opérations de plus en plus scabreuses et auparavant interdites, ou même d'ailleurs toujours dans les traités actuels. Je reviendrai d'ailleurs sur le grave problème du mécanisme de change européen dit MCE2, ce fameux SMEBIS qui tente à se transformer prochainement en EuroBIS. Nous y reviendrons sans aucun doute en 2011. La zone marque ne peut plus rester dans l'euro actuel qui lui échappe malgré les précautions prises au départ et cherche donc à s'élargir aux pays du Nord et de l'Est, membres ou non du MCE2, créé après l'avènement de l'euro en remplacement de l'écu composite et la relègue de l'écu concret depuis 10 ans dans les remboursements des emprunts non fongibles, aujourd'hui éteints à ma connaissance, après avoir survécu dans l'ignorance du public complètement conditionné. Cette création nouvelle, qui permettrait à l'Allemagne de sortir du ghetto anticonstitutionnel actuel portant hémorragie vers les pays GS d'un euro du Nord, laisserait alors l'euro du Sud à sa chute inévitable tout en sauvant les nordistes de la faillite générale. Quid alors de la BCE à Francfort? Dans cette hypothèse, viendrait-elle s'installer à Paris? La France, arrimée à l'Allemagne, laquelle détient 90% de sa dette souveraine directement ou indirectement, sera-t-elle conduite à présider l'euro du Sud et à s'effondrer avec lui? Ou bien va-t-elle suivre l'Allemagne contrainte et forcée dans l'euro du Nord? Comme vous voyez, bien des questions se posent et déjà des commentateurs se ruent dans des commentaires faussés prétendant à la guerre de l'euro du Nord contre le dollar US. Cette guerre est impossible, je le répète encore, pour toutes les raisons du monde, et aussi parce que, de juré, la régionalisation du monde en zone monétaire est voulue comme définitive par le gouvernement mondial qui impose sa ligne politique à tous les gouvernements subalternes, pantins locaux ou encore réputés nationaux. Il s'agit donc en fait d'une nécessaire réorganisation de la zone européenne qui sera liée avec la Russie. La création d'un deuxième euro du Nord, fort, permettrait d'éviter la faillite générale mondiale de la politique monétaire, donc financière, donc bancaire, et donc la mort du gouvernement mondial à peine né. Voilà l'enjeu d'un conflit plus apparent que réel entre le système bancaire mondial et ses 3 banques centrales régionales en Amérique, en Europe, en Asie. Ma conclusion générale de ce problème de point de vue contradictoire, opposé ou solidaire est la suivante. Voilà comment la déstabilisation des ménages et des entreprises par l'inflation galopante de signes monétaires va être consolidée au seul profit du gouvernement mondial contre les peuples. Et voilà les 2 points de vue opposés au total. Comme l'a dit Jésus-Christ, le peuple a le pouvoir de dire non. Et tout s'arrête. Le problème est donc d'évaluer la durée pendant laquelle le peuple va encore se laisser conduire comme les bovins par l'anneau mondialiste qui perce ses naseaux. Bon Noël, bonne année, bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, auditeur de Radio Silence.